les héroïnes, une heure avec des meufs.
Il y a quelque chose qui nous lie, nous vivons toutes les deux la nuit. Nous sommes nés sur les mêmes terres, encore plus à l'ouest que l'enfer. Jamais je ne te l'ai dit, je pense que la mélancolie qui coule dans ton sang et le mien est issue de ce foutu sang.
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane, bienvenue dans Les Héroïnes. Aujourd'hui, je vous propose une interview à deux voix et à distance, puisque celles qui sont mes invitées aujourd'hui sont à Brest. Elles sont enseignantes, chercheuses et co-autrices de Féministes et universitaires, avec un point d'interrogation, ouvrage récemment publié aux presses universitaires de Rennes sous la direction d'Arlette Gauthier. Arlette Gauthier sera avec nous dans quelques instants aux côtés d'Edith Gaillard. Au total, elles sont 9 maîtresses de conférences, professeurs émérites, enseignantes chercheuses, issues de générations, de zones géographiques et de milieux différents. Si les sciences humaines et sociales dominent, leurs disciplines d'enseignement sont aussi différentes. Elles ont en commun la défense des études féministes et de genre, objet de leurs recherches et des formations qu'elles dispensent, mais aussi la lutte, du moins l'engagement, contre les inégalités, les discriminations et le sexisme, voire les violences à l'université et dans notre société en général. Elles parlent donc ici de féminisme universitaire provincial. C'est important de le préciser car, fille du parisianisme méprisant, nous sommes ici à l'ouest, loin de Paris et de son jacobinisme snob et suranné, souvent gavé de clichés et parfois même figé par de vieux carcans. Ici, nous sommes à Brest, à l'UBO, pour Université de Bretagne Occidentale, université lauréate du prix de l'ONU pour l'intégration de la lutte pour l'égalité entre les sexes. L'ouvrage est hybride, si je puis dire, puisqu'il mêle références historiques et universitaires, réflexion et analyse du sujet, mais aussi autobiographie intellectuelle. Edith Gaillard l'écrit ainsi, je la cite, deux points ouvrez les guillemets, « Ici, il s'agit de s'évoquer soi-même dans une posture scientifique ». Fermez les guillemets, avant de rappeler que cette auto-analyse du chercheur et de la chercheuse fait partie intégrante du travail réflexif propre à la recherche scientifique des sciences sociales. Comment les femmes universitaires se sont-elles emparées des études de genre? Comment ont-elles abordé le sujet? Comment devient-on féministe et universitaire? Peut-on être juge et partie, engagée pour une cause, l'étudier et l'enseigner? Autant de questions auxquelles ces 9 parcours tentent de répondre. Et c'est passionnant. Bonjour Arlette Gauthier, vous avez été maîtresse de conférence en démographie à l'Université Paris-Nanterre et professeure émérite en sociologie à l'Université de Bretagne Occidentale, l'UBO de Brest. Bonjour Edith Gaillard, vous êtes maîtresse de conférence en sociologie à l'UBO également. En lisant votre introduction, Arlette Gauthier, j'ai réalisé que moi qui crois très fort en l'éducation des plus jeunes, dès la naissance en fait, et notamment à l'éducation des garçons, avec une conviction forte que tout se joue à ce moment-là de la vie, ben en fait j'ai pas tout à fait raison. Vous parlez du rôle de l'université dans la socialisation secondaire et la construction des cadres de la pensée. Vous dites qu'en France, on ne parle pas de féminisme académique, mais d'études féministes et que cela est réducteur, on y reviendra tout à l'heure. Ma première question, elle est toute simple. En deux mots, si c'est possible, si c'est définissable en deux mots, c'est quoi le féminisme universitaire?
Autrefois, au XIXe siècle, c'était donné, par exemple, les institutrices des écoles primaires en lutte pour l'égalité professionnelle. Mais aujourd'hui, avec le développement de l'université, ce sont toutes les actions qui sont menées en faveur à la fois de l'égalité professionnelle, de la lutte contre les violences, de la mise en œuvre de formation autour des femmes, du genre, de la sexualité. Et donc, mon point de vue, c'est que c'est un peu insuffisant si on parle seulement d'études sur le genre ou d'études féministes, parce qu'il faut tenir compte de tout l'ensemble de ces activités.
Alors, pendant des siècles, l'université a exclu les femmes de ses murs et puis confisqué le savoir entre les mains des hommes. Ce n'est en fait finalement que dans les années 60, 70, que les femmes universitaires, peut-être un peu lasses, voire heurtées par les inégalités entre les hommes et les femmes, se saisissent du sujet des études de genre, même si le mot, lui, genre, n'apparaît qu'au milieu des années 80 pour rendre compte d'une construction un peu plus sociale et de l'existence de rapports de domination entre les hommes et les femmes. Mais en tout cas, les femmes vont se saisir de ces études. Vous, Edith Gaillard, vous dites que cette histoire, elle est en train de se faire, elle est en train de s'écrire, et pourtant, il y a toujours de vifs débats, en tout cas des débats, autour des termes même à employer. On s'y perd un peu, et ça donne aussi l'occasion aux détracteurs d'attaquer ces études, notamment quant à leur objectivité. Alors, les études de genre, est-ce qu'elles sont l'équivalent des études féministes, telles qu'on le disait dans les années 60-70, et qu'est-ce qui pourrait différer en fait entre les deux?
Je vais m'aventurer sur une interprétation qui est toute personnelle, mais je pense que c'est le contexte social, socio-historique, qui fait que on parle pas du tout de la même chose lorsqu'il s'agit des études féministes dans les années 70, au moment où il y a eu le mouvement de libération et les études sur le genre, que je daterai des années 2010. Vous voyez le saut historique qui est une forme d'institutionnalisation des féministes autour de l'égalité femmes-hommes, de cette organisation sociale qui place les femmes dans des positions, majoritairement dans des positions inégalitaires. Et on peut pointer peut-être la dimension moins politique des études sur le genre telles qu'elles ont été institutionnalisées à l'université, si on compare avec les positionnements des années 70.
Ouais, c'est ça. Dans les années 70, on parle d'études féministes, féminines, sur les femmes. Vous citez notamment l'historienne Françoise Pic, ça c'est pour Arlette Gauthier, qui est dans les années 70, ces termes-là, c'est pour dénoncer le patriarcat. On va choisir le terme études féminines pour ne pas trop effrayer aussi. J'ai lu ça, pour que les hommes ne se sentent pas forcément exclus, et les femmes qui ne se revendiquent pas ou ne se pensent pas féministes ne soient pas effrayées. Et il y a des divergences en fait au sein du mouvement à ce moment-là. Et les termes, ils s'adaptent aux disciplines. C'est ce que vous révélez. Et le terme effectivement de genre, lui, pour faire la distinction entre la biologie et le genre socio-culturel qui se construit et qui est construit par nos sociétés, il arrive dans les années 90 en France, hein, il va être utilisé un peu plus tard. Vous dites, Arlette Gauthier, qu'il semble plus large, ce terme, plus neutre, plus facilement acceptable, mais qu'il, en incluant les hommes, ferait aussi, parallèlement, il y aurait une sorte d'occultation des femmes dans l'emploi de ce terme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que le mot « genre » va sous-tendre par rapport à l'inclusion ou l'exclusion des hommes et des femmes ?
Bah, le terme genre lui-même, il a eu beaucoup de sens différents. Donc c'est vrai que lorsqu'il a été surtout développé dans le cadre de la pensée de l'intersexuation par Stoller et des psychologues. Ensuite, Kate Millett le reprend dans un sens contre le patriarcat pour montrer à la fois la catégorisation et la hiérarchie des sexes, hein, Et ensuite, ça a été repris effectivement dans un sens, notamment par les, comme le disait Edith, hein, par les politiques d'égalité entre les sexes qui sont fondées dans les années 1990 pour, bon, genre, ça paraît, bon, patriarcat, ça paraît quand même un gros mot, féministe, parce que c'est tout de suite, c'est pensé comme une opposition entre les sexes, et tout de féministe aussi, et donc, genre, à l'époque, ça paraît un peu plus, plus neutre. Et donc, il y a beaucoup de groupes qui vont prendre, c'est ce qui explique par exemple Annick Well dans le livre, hein, c'est que elle faisait partie d'un groupe d'études féministes et puis l'université leur a dit bah, ce serait mieux de s'appeler plutôt genre. Donc voilà, elles sont appelées genre. Et nous, dans un article paru dans le cahier du genre, bah, finalement, on disait que nous, c'était un groupe qui s'appelait État et rapports sociaux de sexe. On se dit, bah, OK, passons à genre. Bon, c'est, on avait une certaine ouverture finalement par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça, ça a été un contexte un peu compliqué parce que c'était l'époque où il y a eu à la fois ce qu'on a appelé le tournant culturel, c'est-à-dire qu'on est passé avec les recherches de Michel Foucault sur un paradigme qui expliquait les choses au niveau socio-économique, à un autre paradigme qui parle plus en termes de discours de, et moins de réalité sociale. Et puis il y a eu aussi avec Judith Leclerc tout le développement des études où le genre là était plus pensé au niveau de la sexualité que du social aussi. Donc c'est en ce sens, il y a eu ce sens là puis il y a eu l'utilisation aussi notamment dans les études littéraires du terme genre de façon à la fois très intéressante et en même temps pas toujours effectivement axé sur le social. Il y a une espèce, il y a eu une espèce d'évacuation du social dans les études, même si les gens qui avaient commencé à travailler sur cette thématique-là, ben, ils ont continué à travailler sur cette thématique-là.
Et puis,
et le deuxième courant, hein, c'est quand même qu'il y a eu cette invention de la soi-disant théorie du genre
oui.
par les opposants catholiques,
enfin, oui.
les églises catholiques, qui a considéré que le genre, ça voulait dire qu'on voulait absolument que tout le monde pense le sexe et que... qu'on allait enseigner la masturbation aux enfants. Donc, ils en ont fait une espèce de, d'épouvantail où maintenant, le genre, il y a beaucoup de gens qui vous leur disent que vous travaillez dans le cadre des études sur le genre, ils vous regardent comme étant quelqu'un de parfaitement maléfique.
Oui, il faut faire avec, avec les détracteurs. Les détracteurs, j'y reviendrai. Mais on note que dans les années 2020, il y a un retour du terme recherche féministe. Est-ce que ce retour, il est lié à l'évolution de notre société post-MeToo ?
Il y a sans doute ça, parce qu'il y a eu une relégitimation du féminisme après MeToo. Après, et donc... Bon, par exemple, tout ce qui est sur les violences sexuelles, ça avait été dénoncé dès les années 70, hein, avec un peu de tribunal sur les, contre les violences faites aux femmes. Mais là, il y a eu une généralisation, une montée en puissance quand même grâce à Internet et grâce aux militantes. Hein, et donc, je pense qu'il y a cet aspect-là. Peut-être qu'il y a aussi cet aspect bah, qu'on n'a pas envie non plus d'utiliser le terme genre si tout de suite... balance ce genre de représentation. Donc, à mon avis, il y a les deux qui fonctionnent.
Oui, pour contrer les ultra-cathos qui ont utilisé le terme genre pour des fake news autour notamment de l'éducation à la vie affective et sexuelle à l'école depuis qui est une loi en fait depuis 25 ans. Je reviens au fameux détracteur hein, que j'ai cité deux trois fois sur le problème qui va se poser autour du militantisme. Autour de ces études, on dit que le militantisme ne doit pas interférer dans le travail universitaire. Qu'est-ce qu'on répond à ceux et celles qui pourraient vous reprocher dans le fait de faire des études féministes, des études de genre, d'être jugée partie, d'être à la fois militante, du moins engagée et universitaire.
Ben, en réalité, moi, je ne suis pas militante engagée, hein, puisque j'ai beaucoup travaillé, donc je n'avais pas tellement le temps de militer. Et je pense que c'est aussi une forme de militantisme, c'est-à-dire quelque chose qui est favorable aux femmes aussi, d'étudier, de faire des recherches sur un peu les violences, etc. Mais pas au sens où, de militantisme. Je pense que, du coup, féminisme universitaire et féminisme militant, c'est quand même des activités assez différentes. On a le même projet. Alors, par rapport à votre question, je pense qu'il y a deux réponses, en fait. La première, c'est de dire, c'est que quand même, on est dans un pays dont la Constitution porte le terme de liberté et égalité. Donc, d'essayer de chercher comment arriver à cette liberté et à cette égalité pour les femmes aussi, je ne vois pas comment on peut dire que c'est quelque chose qui est absurde, etc. Par exemple, les détracteurs, là, tous les dizaines de gens qui ont publié des livres contre le soi-disant wokisme en disant que le genre, c'est absolument justement épouvantable parce que c'est militant. Il y a notamment Nathalie Henny qui explique que étudier les discriminations, c'est pas quelque chose qui est scientifique. Hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup de Français qui pensent qu'au contraire, c'est tout à fait. Ils ont besoin des renseignements, enfin des enseignements de la science sur cette question-là. Comment on peut lutter contre les discriminations? D'ailleurs, ces détracteurs, ils critiquent par exemple les instituts d'études politiques. Alors là, les instituts d'études politiques sont supposés former des fonctionnaires. Et on ne voudrait pas que les fonctionnaires, ils apprennent, ils sachent faire des recherches ou utiliser le résultat de recherche sur l'égalité et la liberté. Ça paraît vraiment très, très, très surprenant comme position. Et puis, le deuxième, c'est que, c'était Poulain de la Mer, en 1673, qui déjà disait tout ce qui a été écrit par les hommes sur les femmes doit être suspect, car elles sont à la fois juges et parties. Et donc là, c'est aussi le côté, les femmes sont, et particulièrement les féministes, peuvent être juges et parties, mais les hommes aussi. Donc la question, c'est d'essayer de voir comment on accommode ces différents regards, qu'est-ce que ça nous apprend. Et c'est toute la théorie de la connaissance située qui ne dit pas du tout que les études des féministes ou sur les femmes, tout ça, vont refléter le sujet femme, parce que de toute façon, le sujet femme, il est complètement multiple, divers, entre une cadre supérieure et une employée de bureau, il n'y a pas forcément, il n'y a pas le même vécu, donc il y a cette multiplicité qui fait qu'il n'y a pas, que c'est pas un reflet de la position. Et puis, donc c'est l'objectivité, elle se construit. On essaye d'abord par des méthodes rigoureuses et ensuite aussi par la prise en compte des multiples points de vue qui constituent notre société.
Oui, je vous en prie, Edith Gaillard, oui.
Et justement, plus qu'ailleurs, lorsqu'on se saisit de thèmes qui portent sur les inégalités femmes-hommes et sexualité, les discriminations, eh bien, on a ce rapport à l'objet et au savoir qui consiste à vraiment dire d'où on parle, à vraiment faire un travail de dévoilement pour saisir tous les biais qui pourraient y avoir dans les travaux scientifiques, alors même que vous parliez des détracteurs qui se présentent comme neutres et qui portent justement un ensemble de biais sociologiques, économiques, politiques et qui sont jamais renvoyés du côté du militantisme, alors même que se nichent dans des travaux de recherche des impasses intellectuelles.
Oui, qui manquerait d'objectivité là où il vous reproche à vous-même ce manque d'objectivité, de neutralité qui serait nécessaire aux sciences. pause musicale dans les héroïnes sur Canal B. On va écouter Daffodil, Maquillez-vous les hommes.
Encore un soir, un sourire dégueulasse. Tu peux pas t'empêcher de me déshabiller. Ton regard sale me mate et se prélasse. Lève les yeux, petit garçon mal élevé. Au fond, je pense comprendre que t'es jaloux de mes fringues, que tu voudrais m'emprunter mon beau liner à paillettes. Tu te demandes comment j'ai trouvé mon rouge à lèvres assorti à mes bottes et à ton vieux caleçon troué. Maquillez-vous les hommes, mettez en plein les yeux, devenez des icônes, pas des mâles malheureux. Et si ça vous dérange de porter une jupe, un petit short à franges, vous ne deviendrez pas pute. Maquillez-vous les hommes. Un sourire dégueulasse. T'as pas pu t'empêcher de me déshabiller. Ton regard sale m'a maté sans relâche. Lève les yeux, petit garçon mal élevé. Au fond, je pense comprendre que tu pourras pas changer, que tes yeux de pervers resteront bien fixés. Tu te demandes comment m'enlever mes vêtements. Mettez en plein les yeux, devenez des icônes, pas des mâles malheureux. Et si ça vous dérange de porter une jupe, un petit short à franges, vous ne deviendrez pas pute. Maquillez-vous les hommes.
Maquillez-vous les hommes, un titre de Daffodil. Vous êtes bien sur Canal B dans les héroïnes. On retrouve tout de suite nos universitaires brestoises qui nous parlent de féminisme universitaire. Alors, vous, en tout cas, toutes les neuf, vous y voyez plutôt une force. Et vous l'avez souligné, Arlette Gauthier, vous venez d'univers totalement différent, de zones géographiques différentes, d'époques différentes. Et selon donc l'époque, l'avancée du féminisme dans notre société, la discipline aussi qu'on enseigne, l'université aussi où l'on enseigne, les dénominations sont différentes et ça va refléter la pluralité des points de vue tels que c'est vu aussi chez les féministes. Vous vous appuyez ici sur des histoires personnelles, sur vos parcours de vie, vos parcours intellectuels, mais en fait qui forment une histoire collective. Arlette Gauthier, vous écrivez que l'expérience personnelle est finalement universelle, vécue par toutes les femmes, et que la recherche féministe permet de mieux comprendre nos vies. C'est une histoire collective, donc, où se mêlent le privé, le politique et l'académique. Il n'y a aucune frontière entre les trois, le privé, le politique, l'académique.
Je pense en fait qu'elles sont... oui, qu'elles se nourrissent, que les trois sphères se nourrissent les unes des autres. C'est pas d'ailleurs seulement les féministes, hein, le tournant, c'est notamment Pierre Neura dans ses essais d'égo-histoire dès 1987 qui disait « Le dévoilement et l'analyse de l'investissement existentiel, au lieu d'éloigner d'une investigation sereine, deviennent l'instrument et le levier de la compréhension. » Donc c'est quelque chose, effectivement, réfléchir à nos histoires, ça permet aussi d'avoir une... de mener des recherches qui soient plus objectives. Et il y a un chercheur hein, qui avait interrogé 27 sociologues en leur demandant quels sont les liens que perçoit un chercheur entre son activité intellectuelle et sa vie, et qui concluait que souvent c'était les premières expériences qui avaient un rôle déterminant par la suite. Alors c'est vrai que moi, quand je réfléchis à une histoire intellectuelle, c'est vrai que j'ai travaillé sur les esclaves femmes et hommes aux Antilles françaises, sur l'impact des politiques familiales et démographiques à la fois aux Antilles et au Mexique, sur les droits familiaux. Enfin, j'ai fait toutes ces recherches qui paraissent assez éloignées de mon expérience. Et pourtant, quand je réfléchis, je me dis que c'est vrai que c'est qu'elles se nourrissent du fait que j'ai vécu dans une famille extrêmement qui était assez violente, et que tout ça, ça m'a, à un moment donné, intellectuellement, effectivement, où il y avait à la fois le mouvement féministe qui m'a sauvé la vie, il faut bien le dire, de savoir que cette expérience, elle était partagée par d'autres et qu'on pouvait la comprendre au niveau social. Et puis, il y avait aussi les séminaires à l'époque de Michel Foucault et de Marc Ferraud qui, pour moi, m'ont aussi orientée. Donc, il y a eu un croisement, effectivement, de ces trois espaces qui ont fait que j'ai mené les recherches que j'ai menées. Je pense que ça a eu un impact très fort et qui ont fait que je n'ai pas peut-être suivi un parcours et j'ai mené des recherches à des époques où ces thématiques étaient très très peu étudiées.
Edith Gaillard, vous l'écrivez, vous le dites, tout est politique. Donc que tout ce que vous avez pu observer et que vous racontez dans votre parcours, même si vous n'étiez pas directement concerné, vous considérez que tout est politique, que finalement écrire ce parcours intellectuel, ce parcours de vie, pour expliquer pourquoi aujourd'hui vous, en tant qu'universitaire, vous menez telle ou telle étude, c'est politique.
Alors il y a deux choses. C'est ce retour sur ma trajectoire m'a fait dire que ce que je pensais être mon histoire personnelle était finalement enchâssée dans une grande histoire et celui de la massification de l'université, celui justement de la possibilité de réaliser une thèse en études sur le genre, alors que à un moment où la génération d'Arlette a fait le travail pour ouvrir la porte. Donc, je prends conscience, je relis ma trajectoire à l'aune des conquêtes de la grande histoire et dans ma trajectoire universitaire et professionnelle, cet épouvantail du mérite se fissure à l'aune justement de cette dimension sociale qui fait que j'ai le bac à un moment où tout le monde a le bac, que je vais à l'université à un moment où beaucoup de personnes comme moi vont à l'université. Donc il y a cette dimension-là qui est politique. Et puis il y a la dimension de la pensée féministe. Moi, dans mon article, je dis que c'est une révolutionnaire, puisque elle élargit la définition même du politique, qui la limite, la définition dominante limite la politique du côté justement de la politique politicienne, et finalement, grâce au féminisme, on élargit cette définition qui se niche juste dans le privé, juste dans les corps, juste du côté de l'intime, des sexualités. Et c'est là où on arrive à la fois, c'est une dilution de la définition du politique, mais en même temps, c'est une pensée qui nous amène à regarder autrement les faits sociaux à partir de cette lecture.
toutes les deux, Arlette et Edith, vous avez fait le même constat assez tôt qu'une fille ne valait pas son frère, ne vaut pas son frère, ni dans les années 50, ni dans les années 80. Je ne sais pas si on en a encore fini avec ces relents de lois saliques, mais c'est un constat que vous avez fait toutes les deux à deux époques différentes et dans deux milieux différents. Arlette Gauthier, vous dites quelque chose qui m'a marquée, qui est assez simple mais percutant. En racontant votre découverte du MLF, vous en avez parlé, mouvement de libération des femmes, vous dites qu'il a transmuté la souffrance en contestation, puis vous citez Michel Foucault, c'est de l'assujettissement même que vient la révolte. Est-ce que le féminisme universitaire est aujourd'hui révolté ?
Alors c'est compliqué hein, ce thème du féminisme révolté, parce que la représentation de la féministe en colère, c'est quelque chose qui nous est toujours balancé pour nous, parce que c'est pour nous essayer de nous dénigrer, parce qu'en fait c'est contraire à la notion de ce que c'est qu'une femme, ou être une femme justement, c'est qu'elle est douce hein, et que finalement elle sourit face aux injustices. Hein. Et donc il y a des féministes effectivement qui mettent en avant leur self-control, leur respectabilité pour être mieux entendues. Et donc ça, je comprends tout à fait cette stratégie-là. Mais il y a aussi l'autre stratégie qui est un peu défendue notamment par Sarah Mohamed, mais de se reconnaître comme une femme en colère, une femme blessée, une femme qui a été qui a toute légitimité pour essayer de changer les choses, que ce soit les inégalités de promotion, l'injustice épistémique. Hein. En 2018, il y avait une tribune dans le monde pour des historiennes qui dénonçaient le fait que tous leurs travaux n'étaient pas cités par leurs collègues masculins. Voilà, ils considéraient toujours que comme l'avait dénoncé la philosophe Michel Ledeuf, c'est que les femmes, c'est pas intéressant, ce qui nous intéresse, c'est seulement les hommes, pour un ami. Donc ça aussi, c'est quand même, après toutes ces années à travailler, à développer des recherches, qui sont aussi peu attendues aussi, il y a de quoi être en colère. Mais bon, c'est cette colère, elle peut se manifester de façon très, très diverse.
Est-ce que c'est pas pour vous universitaire la double peine d'être à la fois une femme, donc une femme en colère, c'est suspect, et l'universitaire qui doit, pour montrer son sérieux, surtout ne pas montrer ses émotions, sa colère, en tant que femme universitaire, est-ce qu'il y a une double peine, une forme de double discrimination et forcément une posture à tenir pour montrer votre sérieux que de ne pas se mettre en colère ou en tout cas ne pas écrire des choses sur un ton un peu révolté.
Il y a une forme d'habitus, hein, vous savez, c'est comme on apprend à se comporter d'une certaine façon et écrire d'une certaine façon. Donc au niveau de l'écriture, pour moi, c'est finalement ça coule de source, c'est peut-être du coup peut-être c'est moins pertinent, peut-être que c'est un tort que j'ai, mais c'est vrai que j'écris de façon. En plus, bon, moi, j'ai mis à l'effet de signe, je trouve que ça ancre bien quand même la connaissance et tout. Donc, voilà, j'accepte une écriture peut-être un peu ennuyeuse, je sais pas. Par contre, c'est vrai que les émotions liées comme ça à ce manque de respect, ça, que c'est vraiment parce que du coup on défend pas non plus, enfin c'est vrai qu'on est là, on est un peu, enfin moi en tout cas je suis généralisée, voilà, on travaille dur et tout, et puis après plus que ne pas manifester la colère, c'est trouver que finalement c'est difficile de demander les rétributions dont les collègues demandent, de demander des je sais pas quoi, des d'être enfin, de la reconnaissance quoi, c'est on a un peu, enfin moi en tout cas je danse un peu petite souris, et ça je trouve que c'est un tort, et que c'est un tort que j'ai enfin bon.
Et dites, est-ce que vous le ressentez, ou est-ce que votre génération a peut-être en s'appuyant sur celle d'Arlette, se permet aujourd'hui plus de choses vis-à-vis de ça, de justement d'aller demander, d'être payé de la même façon que vos collègues confrères hommes, ou vous restez toujours dans cette habitude de ne pas faire de vagues, qu'on apprend à toutes les femmes, qu'elles soient universitaires ou pas. Est-ce que les temps ont changé ?
Non, les temps n'ont pas changé. Mais là, on est dans un contexte bien particulier à l'université de casse de l'institution, de précarisation de l'ensemble de nos professions. Et donc, on est un peu asphyxié par le contexte budgétaire, général, politique du moment. Et donc ça a tendance à plutôt briser les dynamiques de solidarité et les dynamiques militantes, je crois. Mais sur la colère, moi, elle se porte pas à l'université, mais plutôt à l'échelle de la société. Quand on voit tout le travail en études sur le genre qui a été fait, les collègues qui renseignent des mécanismes qui ont trait aux questions de violence, par exemple, et ensuite, une fois qu'on traverse l'université ou les dynamiques de recherche et qu'on voit à quel point la société ne bouge pas. Alors, je suis peut-être un peu plus négative qu'Arlette, qui verrait quand même peut-être des évolutions, mais quand j'entends les discours à l'échelle des politiques publiques, quand je lis les chiffres sur l'état actuel de l'égalité femmes-hommes, il y a quelque chose qui me met profondément en colère.
J'ai la même colère, mais effectivement, tout en reconnaissant que il y a eu des avancées. Effectivement, même si c'est tardif, le fait que les femmes universitaires aient pu s'emparer de ces sujets dès les années 60, voilà, et que je partage cette colère face à l'état de notre société vis-à-vis des femmes. Nouvelle pause musicale sur Canal B dans les héroïnes. On va écouter Réparer le monde de Léonie Pernet.
Au fond nous empêche devant vous, sciemment. Je tracerai dans le monde, ne serait-ce que l'esquisse, pour chaque étoile qui tombe, pour nos filles et nos fils, d'une armée de colons.
C'était Léonie Pernet avec son titre « Réparer le monde » sur Canal B dans les Héroïnes. Vous avez étudié des situations de femmes dans d'autres zones géographiques. Vous l'avez dit, Arlette Gauthier, vous êtes intéressée notamment aux esclaves, hommes et femmes, dans les Antilles françaises. De votre côté, Edith Gaillard, c'est à travers l'habitat, et notamment les habitats un peu hors normes, hein, les squats outre-Rhin en Allemagne. Est-ce que le fait d'avoir... analyser les inégalités par ce prisme-là en étudiant des femmes qui ne vous ressemblaient pas, c'est plus simple en termes d'analyse, de recul. Edith, vous voulez, vous qui avez étudié les squats allemands pour c'est réducteur, mais...
Alors, qui ne me ressemblait pas, ce qui était étonnant, c'est qu'au moment où je faisais cette recherche, J'avais pas pris conscience que finalement j'étais du même de la même classe d'âge que les personnes que j'interviewais, que je rencontrais. Et quand je suis retournée sur le terrain 10 ans après, là j'ai vu que les squatteuses avaient toujours entre 20 et 30 ans, quand moi j'avais pris 10 ans de plus, et que je me suis aperçue justement qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas bien identifié dans mon rapport au terrain, qui était cette ressemblance par l'âge, les expériences de vie quand on a la trentaine en fait. Et après, c'est vrai de se mettre un peu à distance, d'être comme ça un peu à distance. La barrière de la langue, et puis il y avait aussi la spécificité de l'organisation sociale allemande, et ben ça permet d'éclairer autre chose et autrement, et de mieux voir, de mieux regarder ce qui se passe en France et de mieux voir ce qui se passe en Allemagne.
Arlette Gauthier, vous pouvez nous parler de l'enquête de l'UBO en 2016. Je vais juste dire que c'est une enquête réalisée autour... Alors, c'est pré-MeToo, hein, c'est avant MeToo, qui est réalisée sur les violences envers les étudiants et étudiantes de l'UBO à Brest. Et vous précisez qu'au même moment, des dépliants sur lesquels il est conseillé aux filles de faire attention, de ne pas trop boire, étaient distribués. Cette enquête, elle a été révélatrice de violences et d'une situation alarmante, voire dramatique. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans ?
Là, maintenant, je suis retraitée de l'UBO, donc il n'y a pas eu de nouvelle enquête, donc c'est difficile de savoir ce qui a changé. Ce qui a changé au niveau politique, c'est que vrai que cette enquête, elle avait été réalisée dans le cadre donc par l'INED, avec l'INED, dans le cadre de l'enquête, la deuxième enquête nationale violence et rapports de genre. Et il y avait 3 autres universités qui avaient réalisé cette même enquête. On avait été appuyé en fait par l'université pour la réaliser, et on a pu aussi faire des séances de restitution, mais elle n'avait pas été vraiment portée par la présidence ni par les institutions. Et ce qui a changé là, c'est que récemment il y a eu un plan d'égalité de l'UBO en 2025, et que l'enquête est citée, on montre pas de de l'importance aussi de mener des actions contre les violences. Donc il y a eu une reconnaissance assez tardive mais réelle de cette enquête. Alors, on reste à voir comment ça se passe sur le terrain, hein. Je serais incapable de le dire, et pour cela, il faudrait vraiment réaliser de nouvelles enquêtes. Hein.
Edith Gaillard et Arlette Gauthier, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions en ce week-end férié de mai, et on espère que les choses vont bouger à l'université, notamment ce mépris financier et ce mépris des études de genre et sur le féminisme. Merci à toutes les deux.
Merci
beaucoup, Morgane.
Merci encore Arlette Gauthier et Edith Gaillard. Elles sont deux des 9 autrices du livre Féministe et universitaire avec un point d'interrogation. Ouvrage publié aux presses universitaires de Rennes sous la direction, je vous le disais, d'Arlette Gauthier. Je vous invite à le lire. C'est vraiment passionnant. C'est contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'est très très loin d'être abscon. Il y a plein de références qu'on a ou qu'on découvre, et ça, j'ai envie de dire, ça se lit comme un roman, mais c'est un peu la sensation que j'ai eue moi à la lecture. Donc je vous le conseille, Féministe et universitaire, au PUR, presse universitaire de Rennes, sous la direction d'Arlette Gauthier. Les héroïnes, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un bon week-end, un bon dimanche aux auditrices qui nous auraient écoutés dimanche matin. On se retrouve dans 15 jours normalement. D'ici là, portez-vous bien. Ayez de bonnes lectures saines et intelligentes. Prenez soin de vous et des autres. On va se quitter avec 3 morceaux de musique. On va écouter à suivre Bye Bye Baby de Requin Chagrin, Les Fins Heureuses d'Eli James et Lost Harbor de Requin. Salut.
J'irai voir ce qui ne se dit pas d'autre vie. Plus rien ne se cache, je m'épuise à vous faire comme si je décide de partir. Bye bye baby, bye bye, bye
sans cesse la fin heureuse dans les histoires. On finit par y croire. Aveuglé par nos rêves et par la soif d'un idéal. Trop peur de décevoir.
Shade and I forever sealed along the floor.
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.